Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine demi-heure ensemble et réécouter des extraits des temps forts de cette semaine sur notre antenne, en commençant avec l'invité politique de la matinale de Sud Radio. Mercredi, Patrick Roger recevait Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. L'occasion d'évoquer les vacances du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Des vacances qui passent très mal, notamment chez les enseignants et les parents d'élèves. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
L'envolée des prix à la pompe, le gaz, l'électricité, la taxe carbone, l'écologie, les vacances de Monsieur Blanquer, la campagne électorale, autant de questions que nous allons essayer d'aborder en un petit quart d'heure. Commençons par la justification de Jean-Michel Blanquer. Si c'était à refaire, j'aurais choisi un autre lieu de vacances, mais pas question de démissionner. Le ministre était dans les règles dans ce qu'il a fait.
Oui, il était dans les règles, mais il l'a dit lui-même, le symbole est fort, et donc il a reconnu lui-même qu'il aurait peut-être dû éviter ce genre de destination. Après, il ne faut pas que tout ça détourne des vraies questions, qui sont les questions de comment on gère cette crise sanitaire pour faire en sorte de... trouver le juste équilibre entre préserver évidemment notre santé et puis faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école. Et ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans que on essaye de trouver les meilleures solutions. Moi, je comprends complètement que tout le monde soit très fatigué, que ce soit les personnels de l'Éducation nationale ou évidemment les parents.
Oui, mais la politique, vous connaissez bien aussi, évidemment, vous, Barbara Pompili, elle tourne souvent autour de symboles, quoi, de gestes, en fait, comme ça. Et là, il a commis une erreur, quoi.
C'est vrai, mais il le reconnaît lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que ce n'est pas ça, objectivement, qui aurait changé d'un iota les décisions qui ont été prises. Elles auraient été les mêmes s'il avait été au cœur de Paris.
Mais on doit être exemplaire, quoi, finalement.
Quand on est, quand... Il faut toujours être exemplaire quand on fait de la politique. Après, il faut aussi reconnaître que les hommes et les femmes politiques sont comme tout le monde et peuvent aussi prendre du repos. L'important, c'est qu'on reste à sa tâche. Et le ministre Blanquer est à sa tâche sur le sujet depuis 2 ans. Je rappelle que c'est depuis 2 ans qu'il est jour et nuit dans le travail sur cette pandémie.
Oui, bon. Les plus taquins diront aussi que ce n'était pas très écolo de prendre l'avion pour aller en hiver à Ibiza à 2 heures, qu'il aurait pu choisir une autre destination. Alors, 1,70€ le litre d'essence, parfois. Les questions d'énergie, vous allez en parler demain avec vos homologues européens que vous allez recevoir à Amiens, gaz, électricité. Juste avant ça, cette question quand même de l'essence. Est-ce qu'il faut de nouvelles mesures? Il y a eu le chèque inflation de 100€. Est-ce qu'il faut de nouvelles mesures pour aider les Français avec ce pouvoir d'achat qui est grévé une nouvelle fois?
Oui, alors on fera le bilan sur le pouvoir d'achat en général depuis le début du quinquennat. Nous avons des chiffres qui ont été sortis et qui montrent que le pouvoir d'achat en France a augmenté et plus que dans beaucoup de pays européens. Maintenant, on a une crise aujourd'hui qui est une crise qui est due au prix de l'énergie, qui est une crise très forte, qui est quasiment l'équivalent de ce qu'on a connu dans le choc pétrolier. Et donc, depuis le début de la crise, on a mis en place des moyens pour que nos concitoyens n'en subissent pas trop les conséquences, que ce soit avec le chèque énergie, vous l'avez dit, avec le chèque inflation de 100€, et là ça touche 38 millions de Français, donc on n'est pas sur quelques personnes.
Y compris ceux qui ne prennent pas leur voiture, quoi, d'ailleurs.
Oui, mais parce que justement, les prix de l'énergie, ça touche pas seulement le carburant. Donc on a bloqué aussi les prix du gaz, on a bloqué les prix de l'électricité. Toutes ces mesures font que... on contient l'inflation et on passe cette vague, qui est une vague qu'on espère la plus courte possible, évidemment.
Oui, mais donc, sur les taxes sur l'énergie, est-ce qu'il faut les revoir? Là, si ça continue de monter, par exemple, pour les prix du carburant?
Vous savez, la taxe principale sur l'électricité, on l'a quasiment baissée de zéro.
Oui. Elle était... Non, mais là, je parlais des carburants, de l'essence.
Sur l'essence, vous savez, on a... une fiscalité qui est du même ordre que toute la fiscalité au niveau européen. Quand les gens disent « Oh là là, il y a beaucoup de fiscalité en France », en fait, on est dans la moyenne européenne. Je pense qu'il faut juste qu'on ait ça en tête. Cette fiscalité, elle permet aussi de financer d'autres choses. De financer ce qu'on...
aussi, c'est le pouvoir d'achat aussi qu'elle attaque, quoi, bien sûr, des gens qui se déplacent pour aller travailler.
Quand
là,
il y a un
écoute.
Problème sur le pouvoir d'achat, on met en place des mesures d'urgence. Oui. Je vous rappelle que 100€, ceux qui conduisent beaucoup, là il y avait un reportage qui disait là on a 12€ de plus, là on peut tenir un certain nombre de semaines quand on fait un plein avec 12€ de plus grâce à ce chèque de 100€. Ça ne résout pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mesures ponctuelles, qui sont des mesures d'urgence. Mais nous, notre responsabilité, c'est de nous préparer à la suite. Et nous préparer à la suite, c'est de prendre des mesures structurelles, un, sur les prix de l'énergie, et l'Europe joue un très grand rôle là-dessus.
On va en parler dans un instant.
Et deux, pour aider nos concitoyens à moins avoir besoin d'énergie. Ouais. Quand on aide, avec MaPrimeRénov', nos concitoyens à isoler leur logement, c'est pour qu'ils payent moins cher leur chauffage, qu'ils aient moins besoin d'énergie. Quand on paye
dans l'immédiat,
pour que les personnes achètent des voitures électriques, c'est aussi pour qu'elles arrêtent d'avoir des plaintes très chères. Ouais. Donc, il y a des mesures d'urgence et des mesures de long terme.
Mais là, il n'y aura pas de nouvelles mesures d'urgence face à la flambée de l'essence à la pompe. Il n'y a pas de nouvelles mesures d'envisager.
Que ce soit aide
ou que ce soit en fait sur les taxes.
Je vous rappelle qu'on a déjà sur la table 14 milliards d'aides qui ont été mises sur la table par l'État. On continuera si nécessaire. A priori, ce qu'on espère, c'est que cette crise ne dure pas trop.
Oui, et donc pas de nouvelles aides de prévues.
À ce stade, non, mais encore une fois, elles sont en train d'être mises en place, ces aides. Elles sont en train d'être mises en place.
Alors, pour qu'on comprenne bien aussi, sur le gaz et l'électricité au niveau européen, vous souhaitez revoir ça, parce qu'il faut le savoir, mais les prix de l'électricité que nous produisons, notamment, sont beaucoup dépendants de celui du gaz. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous pouvez faire.
Oui, typiquement... Et c'est en fait tout l'objet de ce qui va se passer là dans les jours qui viennent à Amiens où je reçois les ministres de l'énergie.
Avec vos homologues européens.
De l'énergie et de l'environnement. C'est cette question de mettre en place une souveraineté européenne. On ne peut pas y arriver tout seul au niveau français. La souveraineté européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement arrêter d'être dépendant du gaz russe, par exemple, ou d'importation de pétrole d'ailleurs. Donc, c'est une forme de souveraineté écologique. La souveraineté écologique, ça veut dire qu'on va produire chez nous l'énergie dont on a besoin et on se dote des outils pour pouvoir le faire. Parce que, évidemment, on a en Europe un marché qui nous permet de pouvoir avoir cette solidité. Ça nous permet en Europe de pouvoir dire aux pays étrangers, mais nous, on est soumis à une taxe sur le carbone. Mais vous, pays étranger, vous allez, pour rentrer sur le territoire, vendre vos produits, vous allez devoir payer une taxe carbone aux frontières.
Mais comment on peut s'entendre au niveau européen, sachant que, par exemple, l'Allemagne n'a pas tout à fait la même stratégie que nous et qu'elle s'appuie beaucoup sur le gaz, justement, et le fameux gaz russe, quoi.
Oui, mais justement, on a au niveau européen des pays qui partent d'un point de départ différent. Mais le marché de l'électricité, de l'énergie européen, il nous protège. Aujourd'hui, quand il fait très froid, on importe de l'électricité des pays européens grâce à ce marché. Heureusement, parce que sinon, on aurait des coupures d'électricité. Donc, on a besoin de ce marché qui nous protège. Maintenant, en termes de prix, on voit que quand il y a des crises comme celle-là, le marché n'est pas complètement adapté et donc on travaille avec les ministres de l'énergie et avec les ministres aussi de l'économie, avec Bruno Le Maire, pour réformer cette partie du marché pour qu'elle soit plus adaptée et qu'elle tienne compte justement des mix électriques qui sont plus décarbonés comme le nôtre.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous dès lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Restez avec nous. Dans un instant, on réécoutera un extrait du débat de l'équipe des Brèvois consacré à la hausse de Marine Le Pen dans le classement IFOP du baromètre des personnalités. Et on réécoutera également un extrait d'André Bercoff dans Tous ses états et son invité Harold Bernat pour un échange sur la défaite de la majorité. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Je suis ravie de vous tenir compagnie comme tous les week-ends pour qu'on réécoute ensemble les meilleurs extraits de la semaine. D'ailleurs, on poursuit tout de suite ma sélection avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, Philippe David et ses chroniqueurs et leur invité Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, ont débattu sur la hausse fulgurante de Marine Le Pen dans le baromètre des personnalités. Une progression de 8 points avec 40% d'opinions favorables jamais atteintes par la candidate dans ce baromètre. Écoutez.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle.
Elle peut devenir présidente de la République dans un an.
Je pense que le risque existe et qu'il faut arrêter de jouer avec le feu.
Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent une description caricaturale.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Il faut vous reprendre des vitamines.
Si j'étais président de la République, Le baromètre des personnalités IFOP fiduciales pour Sud Radio et Paris Match est sorti aujourd'hui et deux résultats sont marquants à moins de deux mois du premier tour. Le premier est la chute de tous les principaux membres de l'exécutif avec moins 4 points d'opinion favorable pour Emmanuel Macron à 45%, moins 6 pour Castex à 41%, moins 5 pour Bachelot, moins 6 pour Le Maire et moins 2 pour Véran. Dans le même temps, la plus forte progression est pour Marine Le Pen qui passe de la 29e à la 12e place en gagnant 8 points avec 40% d'opinion favorable, un score jamais atteint par la candidate du RN dans ce baromètre, d'où notre premier débat. Marine Le Pen au plus haut dans le baromètre IFOP peut-elle arriver au pouvoir ? Et vous êtes 43,3% à dire oui. Frédéric Dabi, le premier rolling le 10 janvier dernier, c'est-à-dire il y a même pas 10 jours, disait 58-42 en cas de second tour Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Hier on était à 55-5-44-5. Aujourd'hui à 54-5-45-5, un score quasi identique à Macron-Valérie Pécresse 53-47, est-elle en train de faire la remontada que n'a pas fait Arnaud Montebourg ?
Oui, c'est vrai que c'est un score particulièrement serré. Alors, bien sûr, Philippe, pour nos auditeurs qui sont parfois critiques sur les sondages, et je peux les comprendre, un second tour, c'est extrêmement fragile. Il manque une donnée essentielle pour mesurer finement un rapport de force de second tour, c'est la connaissance des résultats du premier tour. On ne peut pas prendre en compte telle ou telle dynamique. Mais c'est vrai que déjà, le 58-42 que vous rappeliez du 10 janvier a fait tilt chez moi. Rappelez-vous, Philippe, le rolling de 2017, avant la catastrophe du débat d'entre deux tours, Marine Le Pen avait plutôt réussi sa première semaine de campagne et le rolling avait donné 59-41. Après, elle a
absolument
perdu 8 points. Donc, d'être à 42 en début de campagne, c'est-à-dire le haut du rolling de 2017, c'est déjà fort. Là, 54-46, 54,5, 45,5, bah, c'est un second tour presque normal. C'est à 1,5 point près Chirac-Mitterrand en 88, c'est De Gaulle-Mitterrand en 1965, ça montre la normalisation de Marine Le Pen. Et c'est vrai que j'étais avec mon ami Bruno jeudi très frappé par le score de bonnes opinions de Marine Le Pen. Elle n'a jamais eu un score pareil. Qu'est-ce qu'on disait avant, Philippe, sur les popularités des personnalités FN ? On disait, elles sont très faibles, mais c'est en fait un potentiel électoral. Quand je dis que j'ai une bonne opinion de Jean-Marie Le Pen, ça veut dire que je vote pour lui. D'ailleurs, pour essayer à l'époque de mieux capter un vote Le Pen caché, je posais des questions de popularité pour essayer d'essayer d'affiner mes données. Ça ne marchait pas toujours, il faut être honnête. Là, 40%, c'est très impressionnant. Elle progresse de plus de 10 points aux deux extrêmes du spectre générationnel. Elle prend 10 points à gauche. Alors, c'est intéressant à gauche. Et on va attendre Christophe, parce que dans un contexte où la gauche est un peu évaporée de cette campagne présidentielle, bien sûr, la gauche n'ira pas massivement chez elle, mais dans un second tour, il peut y avoir un électorat de gauche pour un vote révolutionnaire, comme on dirait à l'époque. Et puis, 11 points de plus chez les sympathisants républicains. Elle devient une candidate attrape-tout en popularité.
Philippe Bilger.
Avant même l'irruption fracassante d'Éric Zemmour dans le débat, lorsque nous avions comme seule perspective Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, je considérais qu'elle allait perdre, bien sûr, mais de très peu, de peu. Et aujourd'hui, je continue à penser qu'un deuxième tour, l'opposant à Emmanuel Macron, probablement la ferait encore perdre, mais il y a trois éléments que je prendrai très vite en considération. D'abord, je pense que malgré les sondages qui laissent penser qu'Emmanuel Macron est haut au premier tour, eh bien, il y a tout de même une détestation forte du président dans le pays. Deuxième élément, je pense que Marine Le Pen, là, c'est, pardon de le dire sans vanité, le technicien de la parole qui l'appréhende, elle a fait de très grands progrès sur l'argumentation et je dirais même sur l'expression. Et troisième et dernier élément, vous l'avez dit tout à l'heure Frédéric, il faut bien voir à quel point Éric Zemmour lui sert aujourd'hui, puisque elle n'est plus l'extrémiste, elle apparaît presque avec un programme presque banal, et donc d'une certaine manière elle échappe à ce qui pouvait faire peur hier. Mais je ne crois pas tout de même que dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron, elle gagnerait. Mais la chose est beaucoup plus tangente qu'à l'époque.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver l'équipe des Vrais Voix, rendez-vous dès lundi à 17h, juste après C'est Votre Avenir. On continue avec André Bercoff dans Tous ses états. Mercredi, l'animateur recevait Harold Bernat, professeur agrégé de philosophie à Bordeaux et auteur du livre « La défaite de la majorité, liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Un livre dans lequel l'auteur se demande ce qu'est devenu la philosophie dans l'espace médiatique, avec un président qu'il qualifie de philosophe qui a détruit dans l'institution l'enseignement de la philosophie. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Alors Harold Bernat, je vais vous dire, c'est une petite maison d'édition, mais c'est un livre vraiment qui m'a procuré un très grand plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui va dans la tradition française, qui date même avant les Lumières, et ça s'appelle quoi ? Avant liberté, égalité, fraternité, esprit critique. La chose la plus importante du monde, avoir question à tout, je le radote tout le temps dans l'émission, se poser des questions, ne pas penser que tout ça c'est effectivement donné, et que quand on vous parle, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, il s'agit quand même de mettre en question, au sens le plus vrai du terme. Et alors, Harold Bernat, vous n'y... Bernat ou Bernat, pardon ?
Comme vous voulez.
Comme vous voulez, d'accord. Et vous, vous n'y allez pas, je dirais, de mots morts ni de mains mortes, et vous commencez très fort. Encore une fois, ça s'appelle la défaite de la majorité, et c'est un must, c'est à lire. Pourquoi c'est à lire ? Je le dis, et je... parce que quand vous commencez, et j'aime beaucoup ça, vous commencez par, et je lui dirais, l'exergue de Ray Bradbury dans Fahrenheit 451. Voici ce qu'écrit Ray Bradbury. Quelques cinglés, et vous penserez à quoi ? Vous pensez à nous. Quelques cinglés à la tête bourrée de poésie, ça les laisse froid. Ils le savent bien, et nous aussi, tout le monde le sait. Tant que le gros de la population ne se balade pas en citant la Magna Carta, Charta et la Constitution, tout va bien. C'est-à-dire, effectivement, vous posez le problème qu'on connaît actuellement en ces temps sanitaires, mais qu'on a connu depuis toujours. C'est voilà, qui parle, de qui parle, et justement, les majorités, où sont-elles ? Et vous parlez de cet éthos critique et vous avez fait un livre avant, À l'ombre, au réseau funèbre de la classe de philosophie. Et je voudrais que vous rappeliez justement cette fonction de la classe de philosophie, de la philosophie et de la place qu'elle a aujourd'hui dans l'enseignement et pourquoi cet esprit critique a disparu, en tout cas s'est dissous dans l'eau de du pédagogisme.
Alors merci André pour cette invitation et la bienveillance dans la lecture. Bon, on a élu en 2017 un président philosophe. Et ça a été évidemment construit à grand renfort de publicité, à grand renfort de construction médiatique, de tout un champ culturel français qui a tenu à nous vendre un fondé de pouvoir du capital comme un philosophe. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir à cette question, que devenait aujourd'hui la philosophie dans l'espace médiatique ? Ça fait très longtemps que je me pose cette question. En tant que professionnel, puisque je suis professeur de philosophie, j'enseigne à temps plein en terminale.
Depuis longtemps.
Voilà, depuis 22 ans.
22 ans, oui.
Et c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Voilà. Je fais pas des ménages pour vendre des livres. En fait.
Oui, je rappelle que les ménages, c'est quand tel ou tel philosophe ou intellectuel, etc., va parler pour telle ou telle entreprise. Et je voudrais juste qu'on le dise tout de suite et touche effectivement pour une soirée ce qu'un professeur toucherait quoi en 3 mois.
Voilà, c'est ça. Oui, en 2-3 mois. Oui.
D'accord.
En 2-3 mois. Donc c'est mon métier. Et oui. sous ce quinquennat, donc du président philosophe, mon métier a été attaqué comme jamais. Puisqu'on a vu la fin de la scierie littéraire, hein, qui existe en France depuis 1808, enfin la classe de philosophie, l'enseignement de la philosophie. Donc plus de 200 ans. Et c'est un président philosophe armé d'un ministère...
Fin de la scierie littéraire, ça signifie quoi ?
Fin de la scierie littéraire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de scierie dans le baccalauréat. Et la philosophie qui était la matière évidemment dominante dans la scierie littéraire, avec 8 heures ou 9 heures d'enseignement, cet enseignement a disparu.
Complètement ?
Alors, il n'a pas disparu complètement, il y a 4 heures pour toutes les scieries. Mais par contre, il a disparu en tant que, évidemment, cet enseignement qui privilégiait un approfondissement, d'accord, en particulier en série littéraire, avec une vraie formation, et beaucoup d'élèves d'ailleurs qui faisaient ensuite des études littéraires ou des classes préparatoires littéraires trouvaient dans cet enseignement vraiment quelque chose de très fort. Et donc le paradoxe, il est là, c'est que le président philosophe vendu par les médias est celui qui a détruit dans l'institution l'enseignement de la philosophie. Et la question derrière tout ça, évidemment, elle est simple, c'est que à qui sert le crime
et pourquoi, À qui profite le crime
et c'est très simple, le crime profite à ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on pense dans l'institution. Et je dis bien dans l'institution. Penser dans l'institution, c'est pas simplement jouer avec des éléments de culture générale. C'est donner aux élèves la capacité de réfléchir l'endroit où ils sont, les coordonnées dans lesquels ils se trouvent. Et il se trouve que la spécificité de cet enseignement, qui est particulier, évidemment, terminal, c'est que le professeur de philosophie ne peut pas se défiler. Il ne peut pas se défiler face au monde qui est le sien et qui est le monde des élèves. Je prends simplement une anecdote. Lorsqu'il y a eu des manifestations pour les retraites, des élèves sont allés dans la rue. J'ai un exemple très précis, ça s'est passé à Stalingrad, à Bordeaux. Il y a eu usage de LBD, de tir, contre
des grenades, carrément,
des élèves de première, de terminale. Mon fils y était, il était en seconde à ce moment-là. C'était sa première manifestation. Et il m'a envoyé un SMS en me disant « Papa, c'est la guerre ». Voilà la première expérience en fait, de manifestation de mon fils, qui est né en 2003, à Stalingrad. Ce jour-là, une élève a été éborgnée. Voilà, une jeune fille de 17 ans. Les élèves me parlent de ça. Les élèves me parlent de ça et ils me disent « Monsieur, vous en pensez quoi ?» Selon l'application de M. Blanquer, selon son application de la laïcité, mon devoir de réserve m'oblige à botter en touche. Si je botte en touche, je ne fais plus mon métier. Donc là, je suis dans un choix qui est très simple, en fait. Soit je fais mon travail de professeur de philosophie, c'est-à-dire je rends intelligible une situation pour des élèves de terminale, de quelque chose qu'ils vivent. Mon amie s'est faite éborgner alors qu'elle manifestait pacifiquement. Soit je me défausse.
Soit vous n'en parlez pas.
Je me défausse et je me cache derrière, on en parlera tout à l'heure, une dimension aujourd'hui tout à fait normopathique, c'est-à-dire j'applique à la lettre la règle.
La règle.
Voilà, j'obéis et je n'en parle pas.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états et ses invités, rendez-vous tous les jours en direct, bien sûr, de 12h à 14h. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, même heure. Prenez soin de vous surtout. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.